Bonjour, nous sommes partis en vacances, mais pour vous accompagner, nous vous avons concocté des rediffusions. Bonne émission.
C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, c'est comme si quelqu'un avait violemment appuyé sur la pédale de frein d'une voiture lancée à pleine vitesse. Le monde est figé, plus de la moitié de l'humanité vit confinée. Dans quelques dessins de presse, le pangolin, soupçonné d'avoir transmis le virus à l'homme, est adoubé par l'ensemble de la biodiversité pour avoir enfin réussi à nous cloîtrer. L'image est amusante, mais nous le savons tous, cette crise d'une ampleur inédite est temporaire. Il y aura un après. Nous allons ressortir. L'économie mondiale va se remettre en route. Comme si de rien n'était, pas si sûr. Certains, comme le président français, déclarent que plus rien ne sera comme avant.
Le moment que nous vivons est un ébranlement. Il nous rappelle que nous sommes vulnérables. Nous l'avions sans doute oublié. Il y a dans cette crise une chance. Dans les prochaines semaines, avec toutes les composantes de notre nation, je tâcherai de dessiner ce chemin qui rend cela possible. Il nous faudra bâtir une stratégie où nous retrouverons le temps long, la possibilité de planifier, la sobriété carbone, la prévention, la résilience, qui seules peuvent permettre de faire face aux crises à venir.
Formidable, mais dans les coulisses, les gagnants du monde d'avant s'activent. Le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a convoqué aujourd'hui, ce jeudi, un sommet européen consacré à la relance économique, a martelé qu'il était temps de poser les bases d'une reprise économique musclée, sans mentionner pour le coup la sobriété carbone ou la résilience. De son côté, le MEDEF, le syndicat du patronat français comme d'autres, s'inquiète des décisions qui vont être prises et il le fait savoir, comme l'a révélé le député écologiste français Mathieu Orphelin.
J'ai été très surpris d'avoir un certain nombre d'informations la semaine dernière qui montraient que, par exemple, le MEDEF avait profité de la crise du coronavirus pour écrire la semaine dernière à la ministre de l'Écologie et de la Solidarité pour lui demander de revenir sur un certain nombre de lois qui avaient été pourtant votées il y a seulement quelques mois, la loi mobilité, la loi énergie-climat, et demandant au gouvernement d'abaisser cette ambition dans la transition écologique et solidaire. Ces formes de lobbying sont tout à fait inacceptables et penser qu'en abaissant l'ambition sur la transition écologique, on va préserver de l'emploi, c'est évidemment une vision du passé. On ne fera pas de business dans un monde dévasté. Je suis désolé, c'est juste écouler les stocks de SUV ou de véhicules très polluants, c'est pas la bonne stratégie pour nos constructeurs.
Mathieu Orphelin, chez nos collègues de Sud Radio, on ne fera pas de business dans un monde dévasté. Voilà une phrase qui devrait être la base de nos réflexions pour ce que tout le monde appelle aujourd'hui le jour d'après, pour construire une société plus juste, plus résiliente, plus soutenable. Mais comment s'y prendre pour que cette crise nous serve de leçon? Nous en parlons tout de suite avec nos invités. Avec nous pour cette émission, trois invités. Alain Grandjean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, président de la Fondation Nicolas Hulot, membre du Haut Conseil français pour le climat et vous venez de publier avec Nicolas Dufresne une monnaie écologique pour sauver la planète chez Odile Jacob. Ça tombe bien, on va en parler dans un instant. Avec nous aussi Félouine Sarr qui est à Dakar. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, philosophe, professeur à l'université Gaston Berger à Saint-Louis au Sénégal et cofondateur avec Achille Mbembe des ateliers de la pensée de Dakar. Cyril Dion aussi est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, écrivain et garant du bon fonctionnement de la Convention citoyenne pour le climat, une initiative qui s'est exprimée aussi dans cette période de recherche d'un jour d'après. Nous allons en reparler. Merci à tous en tout cas de jouer le jeu de la radio virtuelle. Finalement, nous sommes dans la même situation que les auditeurs qui nous entendent sans nous voir. Alors j'aimerais tout d'abord vous demander à tous les trois ce qui vous a le plus frappé depuis le début de cette crise sanitaire avec votre vision d'homme averti sur ces enjeux écologiques et sur l'état du monde. Alain Grandjean, qu'est-ce qui vous a le plus frappé depuis le début de cette crise?
La première, c'est que personne ne l'a vu venir. Alors, c'est très facile maintenant de retrouver les alertes des épidémiologistes. Enfin, quand même, grosso modo, même dans le camp écologiste, on s'est un peu trompé de crise. Même les personnes qui pensaient qu'on allait vers un effondrement n'ont pas vu que c'était un petit, une petite bébête comme ça qui nous mettrait dans cette panade. Ça, c'est numéro un. Et numéro deux, ce qui m'a énormément frappé, c'est que pour finir, certes, il va y avoir beaucoup de victimes, certes, la crise est grave et mondiale, n'empêche que l'ampleur des mesures économiques, des mesures de confinement, et c'est une grande première dans l'histoire de l'humanité. Je trouve ça très frappant et donc je serais profondément choqué, comme Mathieu, qu'on n'en tire pas des conséquences, mais vraiment en profondeur sur notre mode de fonctionnement de l'économie et notre mode de travail.
Félouin Sarr, qu'est-ce qui vous a choqué depuis le début de cette crise ?
Je pense qu'il y a un caractère totalement inattendu et inédit. On sait que l'humanité est habituée à des pandémies, et le continent africain en particulier, mais le fait que ça ouvre une brèche dans le temps, c'est-à-dire qu'un certain nombre de potentialités historiques qui semblaient lointaines ou relevées du domaine de l'utopie, même si elles ne se réalisent pas, sont dans le domaine du probable et du contingent. Donc là, on réapprend la contingence. Donc, et puis, on se rend compte que le système ne relève pas d'une réalité qui serait totalement hors de portée. En tout cas, le système dans lequel nous vivons relève de conventions de choix et qui peut s'arrêter et qu'on peut changer de direction. Et cette potentialité historique-là, elle apparaît beaucoup plus probable. Et c'est ça qui m'a le plus frappé, de voir la production industrielle arrêtée, de voir les individus confinés, de voir les économies qui veulent reprendre, mais par activité jugée essentielle, et de voir qu'en fait, ce qu'un certain nombre d'individus ont demandé, ont appelé de leur vœu, était possible et que c'est visible. Après, bien évidemment, ce sera une vraie bataille, mais en tout cas, le réel nous montre qu'il n'est pas dans une trajectoire linéaire et que il est chaotique, qu'il est imprévisible et que ça veut dire qu'il y a des potentialités qui sont toujours là. Et c'est pour moi l'un des aspects les plus intéressants, en dehors bien évidemment des aspects sociologiques et de toute la réflexion sur notre condition humaine et notre finitude que ça implique.
Cyril Dion, qu'est-ce qui vous a le plus frappé depuis le début de cette crise ?
Ce qui est extraordinairement frappant, c'est de voir qu'en quelques semaines, on peut avoir 4 milliards de personnes confinées. Là où depuis des années, nous écologistes, on entend dire que les mesures qu'on propose sont extraordinairement liberticides, que les écologistes sont les nouveaux fascistes parce qu'ils veulent attenter aux libertés individuelles. Tout d'un coup, face à une urgence vitale, on voit bien que on est obligé, ensemble, de prendre des mesures qui sont extrêmement limitantes par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Et que les débats qu'on pouvait avoir sur est-ce que c'est possible de demander aux gens de rouler à 110 plutôt qu'à 130 sur l'autoroute paraissent assez dérisoires quand on voit que en un mois et demi, on peut plus sortir de chez nous, que l'économie mondiale est hors de la déroute. C'est la deuxième chose qui me frappe, c'est de voir à quelle vitesse l'économie est en train de plonger, à quelle vitesse le prix du baril de pétrole est en train de plonger. Il est carrément négatif aujourd'hui dans un monde qui se pense aussi abouti, efficace et d'une certaine manière invincible.
Alors, est-ce que pour vous, cette crise sanitaire, c'est un signal d'alarme pour que l'humanité prenne enfin conscience, j'ai envie de dire, de l'état du monde dans lequel nous vivons ? Peut-être une occasion d'apprendre de nos erreurs. Alain Grandjean, vous avez écrit que pour vous, c'était le dernier avertissement.
Oui, ça me paraît vraiment extrêmement clair. Si on ne tire pas les conséquences de cette crise en termes de l'absence de durabilité de notre système économique et si on continue à penser comme avant, la prochaine, ce sera une crise qui conjuguera des questions sanitaires, qui conjuguera des désastres climatiques, qui conjuguera des désastres sociaux, parce qu'on ne va pas se remettre si vite que ça de cette situation dans laquelle on est. Là, je parle au niveau mondial, qui conjuguera des crises majeures. Donc, je pense que, malheureusement, c'est un avertissement. Si on ne l'entend pas, c'est qu'on en est dur d'oreille.
Hein. Félouin Sarr, pour vous aussi, c'est un signal d'alarme. C'est une crise qui nous dit, attention, là, vous êtes tous confinés, comme on le disait, on est tous bloqués, l'économie mondiale est arrêtée, mais c'est peut-être le début d'une série.
Je le pense aussi, parce que fondamentalement, ce que la crise nous dit, c'est ce qui n'est plus durable, ce qui n'est plus tenable, ce qui ne peut plus continuer en l'état. Et je pense que là, l'avertissement est extrêmement sérieux, et je ne vois pas ce qu'il nous faut de plus. La grande question qui s'offre à nous, c'est en quoi demain devrait être différent d'aujourd'hui et que faire pour que demain soit différent d'aujourd'hui. Et nous sommes aussi de grands oublieux, je veux dire, la mémoire des crises d'une génération à une autre, elle passe. Et la question pour moi, elle n'est pas là, elle est de se dire que faisons-nous pour transformer donc cet enseignement-là en en changement radical de culture? Et quels sont les espaces de travail pour que nous changions de culture? Et en plus, quelles sont les forces sociales en présence pour faire advenir ce changement de culture-là, qui sera une lutte? Parce que bien évidemment, le capitalisme ne se rendra pas. Il se battra avec férocité. Il a des outils, il a des armes, il a des alliés. Et on a vu que ceux qui ne veulent pas que le monde change ou que les choses changent sont déjà en ordre de marche et de bataille. Et pour moi, la question, elle est sociale et elle est aussi politique. C'est-à-dire, là, je pense qu'on tire tous les leçons de cette crise, mais comment est-ce qu'on transforme dans le rapport de force cette crise en changement culturel? Et pour moi, c'est l'une des questions les plus importantes. Mais il est bien évident que des choses devront changer et il ne s'agit pas de jouer les augures, mais elles devront fondamentalement changer puisque la crise nous indique que ce mode de vie, il n'est pas durable. Et puis, on le savait, mais là, on en fait l'expérience de manière beaucoup plus claire.
Cyril Dion, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, ce serait difficile de ne pas être d'accord avec ça. Je pense que ce que ça nous enseigne aussi, c'est que même si je suis d'accord avec Alain Grandjean sur le fait que, évidemment, personne n'a vu venir cette crise, malgré tout, il y avait un certain nombre d'alertes qui avaient été lancées par des scientifiques qu'on a effectivement retrouvées, qu'on a exhumées, dont un rapport que Emmanuel Macron aurait reçu, par exemple, en France, en mai 2019, indiquant un risque de pandémie important. Là, ce qui est très frappant, c'est de voir à quel point les responsables politiques, en tout cas dans un certain nombre de pays, s'appuient sur l'expertise scientifique pour prendre leurs décisions, même si ce ne sont pas les scientifiques qui décident eux-mêmes. On aimerait profondément que les responsables politiques fassent la même chose pour la crise climatique. On a des alertes depuis suffisamment longtemps. Aujourd'hui, ça fait 40 ou 50 ans que les scientifiques nous alertent sur ce qui pourrait se passer. On a aussi des alertes qui sont de plus en plus fortes sur la destruction de la biodiversité et sur l'accélération que ça peut avoir sur la transmission d'épidémies d'animaux sauvages à des humains. Bon, ça non plus, on l'écoute pas beaucoup. C'est encore quelque chose qui est très à l'aveugle. On commence à parler beaucoup du changement climatique. On parle très peu du fait que, à force de déforester, à force de faire disparaître des populations, ça a des conséquences sur l'ensemble de la chaîne du vivant et on en fait partie. Je pense aussi que c'est un des enseignements de ce qui est en train de se produire, c'est que face à un virus, nous qui ne sommes que des êtres vivants, qui ne sommes pas encore des êtres transhumanistes protégés des virus et des bactéries, on est forcé à un petit peu d'humilité et à reconsidérer notre condition, qui est une condition animale malgré tout.
Alors, Félouine Sarr le disait, hein, comment pouvons-nous tirer des leçons de cette crise? Nous en parlons ensemble, restez avec nous, juste après une pause musicale.
The hottest new trend is here, and it's got everyone talking. What's spreading quick and makes you sick, infecting everyone? It's worldwide and many have died, but so much fun. You start to cough, then pass it off, and no one knows what to do. But wash and clean and quarantine for Wuhan flu. Corona, corona, the virus infecting us all. Corona, corona, you cough and shake, then fall. There is no cure, it's not secured, pandemic soon begins. But don't be scared, just stay prepared when panic settles in. It's growing fast, so wear a mask, buy plenty of extra food. But don't wait long, it's soon to be gone, and now you're screwed. Corona, corona, infecting everyone. Corona, corona, the worst is yet to come. Everyone's got corona, you're gonna get it too.
RFI. Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Il faut redéfinir le grotesque en fait. On ne se rend plus compte que les milliers de petites actions qu'on fait tous les jours sont grotesques pour la plupart. Aussi grotesque qu'à l'époque où tout le monde fumait, par exemple. Quand la clope est arrivée, le médecin fumait dans la pièce du mec qui allait mourir d'un cancer du poumon en lui expliquant « ouais, c'est pas de bol hein. ». Et on s'est rendu compte que c'était grotesque, et maintenant tout le monde le sait. Avec le recul, on se dit que c'était aberrant. Et ben en fait, il y a plein de petites conneries comme ça dans notre quotidien qui sont du même niveau que cette histoire de clope. Et c'est la bonne idée d'arrêter de les faire. C'est ça la vraie idée.
C'est pas du vent sur RFI.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI avec nos invités. Nous essayons de comprendre ce que cette crise révèle de l'état du monde et les leçons que nous pourrions en tirer pour construire une société plus juste, plus résiliente, plus soutenable. En Afrique de l'Ouest, par exemple, l'agriculture est la principale source de revenus pour les deux tiers de la population, déjà durement touchée par les conséquences du dérèglement climatique qui modifie le cycle des pluies. Les agriculteurs subissent les conséquences de la crise du coronavirus qui ferme les frontières, en empêche les transhumances et la circulation des produits, comme le démontre ce reportage de Alain Yero Mbaro en Guinée-Bissau.
Joachim et Sambinte vivent dans leur plantation de Narcadier, à 35 km de Bissau. La saison dernière, les noix de cajou leur avaient rapporté 2 millions de francs CFA, environ 3 000 euros. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Cette année, les récoltes promettent d'être excellentes, mais le coronavirus est en train de transformer le rêve de cette famille en cauchemar. Joaquin est inquiet. Aucun grain de riz dans son grenier et pourtant son magasin est plein de noix de cajou. Nous avons suffisamment de noix de cajou, dit-il, mais il nous faut de ne pas pouvoir les vendre faute d'acheteurs. Et jusqu'à quand cela va durer? Son épouse, Sambikte, et leurs trois enfants ont trouvé une autre solution, transformer le jus de cajou en rhum très prisé en ce moment. Les pommes de cajou sont versées dans un pétrin en forme de pirogue et à l'aide de pilons, ils pilent et pressent. Tous les commerçants locaux sont confinés chez eux. Les frontières sont fermées, les acheteurs indiens sont bloqués dans leur pays à cause du coronavirus. Mama Yero Diamanka, président de l'association des exportateurs de noix de cajou. Les opérateurs ne peuvent pas rester les bras croisés jusqu'au mois de mai. Ils veulent que l'État soit en première ligne. Il doit se ceindre les reins et ne rien attendre du ciel. La Guinée-Bissau exporte chaque année environ 200 000 tonnes de noix brutes, essentiellement vers l'Inde. L'État empoche pour cela 70 à 80 millions de dollars. Alain Yerombalo Bissau, RFI.
Voilà pour la Guinée-Bissau, mais c'est le cas évidemment dans de nombreux pays. Bonjour Mamadou Goïta.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis Bamako au Mali. Vous êtes le directeur de l'IRPA, de l'Institut de recherche et de promotion des alternatives de développement. Des ONG comme Oxfam craignent une crise alimentaire qui pourrait toucher plus de 50 millions de personnes en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous partagez cette inquiétude?
Ah oui, cette inquiétude est vraiment partagée dans la mesure où d'abord la situation actuelle présage énormément de difficultés pour l'Afrique de l'Ouest. La plupart des pays rentrent dans la saison pluvieuse, donc qui est la saison de production. Si on voit les mesures qui sont prises aujourd'hui dans un mimétisme effarant, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de difficultés auxquelles les paysans vont faire face, les éleveurs et aussi les pêcheurs. La première grande difficulté, c'est que nous sommes engagés depuis des années dans un système de production agricole qui est complètement déconnecté des réalités de nos pays. À titre d'exemple, les facteurs de production que nous utilisons sont des facteurs qui se retrouvent en dehors du continent. Je parle des intrants chimiques, je parle de la plupart des semences aujourd'hui qui ont été introduites dans la logique de la révolution verte. Et dans certains cas où ça existe, l'accès des producteurs à ces facteurs de production devient assez difficile. Donc, on peut présager l'accès aux facteurs de production de façon différenciée et difficile, donc ce qui va jouer sur la saison agricole. Un deuxième élément important, c'est que cette crise a amené des réformes extrêmement importantes dans la structure des budgets. Donc, les investissements qui étaient déjà faibles dans l'agriculture dans nos États vont encore devenir encore plus faible. Et donc, même dans certains cas où les conditions peuvent être réunies, les investissements dans l'agriculture vont diminuer de façon drastique. Donc, ce qui présage les difficultés en matière de production. Et si on ajoute à ça aujourd'hui, que déjà, certains produits ont connu une flambée des prix compte tenu du fait qu'il n'y a plus de mouvement de population entre pays, dont l'accès devient difficile. En produits sur le continent, notamment les riz, le maïs ou d'autres types de produits, l'accès devient difficile. Donc, il y a une flambée de prix qui fait qu'il y a des difficultés d'accès à ces ressources-là.
On a bien compris. Merci beaucoup, Mamadou Goïta. La ligne n'était pas toujours très bonne. On a bien compris, en effet, que le secteur agricole, hein, qui est la source de revenus pour plus des deux tiers de la population en Afrique de l'Ouest, souffre beaucoup avec cette crise. Félouine Sarr, comment est-ce que vous réagissez aux propos de Mamadou Goïta et à ces fragilités du secteur agricole en Afrique de l'Ouest, vous qui écrivez que l'Afrique a tous les ingrédients, hein, pour inventer son propre modèle économique?
Elle les a en potentialité. Et ce que cette crise nous révèle, c'est déjà les vulnérabilités de ce secteur-là. Premièrement, c'est un secteur qui est très extraverti, donc il l'a montré. Il y a le défi de la sécurité alimentaire. Ce que je trouve intéressant pour la crise, il dessine en filigrane et de manière claire, et il révèle toutes les fragilités, donc il les met à nu. Et j'espère que ce sera l'occasion pour les gens qui conçoivent les politiques publiques dans notre pays de voir quels sont les chantiers les plus urgents. Et pour moi, l'un des chantiers les plus urgents, c'est donc d'assurer la sécurité alimentaire, de réorienter les agricultures vers des agricultures vivrières, on a une grande dépendance de nos pays pour se nourrir de plusieurs céréales ou de spéculations que nous importons en grande quantité. Si le commerce international est bloqué tel qu'il l'est, si nous sommes dans une configuration comme la nôtre, évidemment, il y aura un risque de crise alimentaire du fait que ben, c'est un secteur stratégique que nous n'avions pas considéré comme un secteur stratégique. En plus de cela, ce qui apparaît clairement, c'est quand même la précarité des revenus et la précarité de la condition économique et sociale de 70% de la population qui vit dans le secteur agricole. Et il suffit que pour un ou deux mois, que les marchés soient fermés, que les individus ne puissent pas circuler pour qu'un grand nombre d'individus n'aient plus d'autre recours que de dépendre de l'aide alimentaire et non pas d'épargne. Il n'y a aucune structure donc, d'assurance qui est mise en place. Et à mon avis, il y a là réellement un vrai chantier à mettre en œuvre après la crise du fait que ces vulnérabilités ben, sont apparues avec une plus grande acuité et ça doit être une priorité absolue pour nos États.
Alors Alain Grandjean, on entend voilà, cette situation en Afrique de l'Ouest qui peut sembler assez éloignée de la situation en Occident, quoique hein, en Occident, on a vu par exemple en France, il y avait 250 000 paires de bras qui manquaient pour faire les récoltes dans les champs. C'est-à-dire que nous aussi, en termes de autosuffisance alimentaire, on est un peu limité. Ça plaide pour une relocalisation, tout ça, non ?
Oui, ce que je pense, c'est que si on tire une leçon de cette histoire sur le terrain du commerce international et du libre-échange, on comprend bien que tous ceux qui disaient, dont je faisais partie, que ce libre-échange n'était pas une fin en soi et c'était pas une très bonne idée, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on revienne au protectionnisme, parce qu'il y a deux gros enjeux. Le premier, qui est la solidarité internationale, qui doit s'exprimer de manière massive. C'est complètement fou que le président des États-Unis veuille supprimer le financement à l'OMS. Et les positions de ce type sont scandaleuses et posent vraiment des questions importantes, notamment au niveau de l'Europe, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a un premier point, c'est qu'il ne faut pas confondre sortie du libre-échange et fin du multilatéralisme et des solidarités internationales. Au contraire, cette crise, elle est vraiment de nature à nous inciter à être solidaires les uns des autres au niveau mondial et notamment vis-à-vis de l'Afrique. Et deuxième point, c'est pas être naïf non plus, c'est pas en trois jours qu'on va relocaliser dans chacun des pays tout ce dont on a besoin d'un atteint. Bon. Donc il faut un peu travailler, j'aime bien l'expression de Felwin qui parle de chantier, le chantier de la démondialisation, si on l'emploie dans son terme limité qui est de sortir du libre-échange pour retrouver des espaces plus proches de nous sur ce qui est essentiel, c'est un chantier qui va être long et difficile. On ne fera pas tout dans chacun de nos pays, évidemment.
Cyril Dion, les citoyens se sentent souvent impuissants hein, face à ces enjeux de la mondialisation qui semblent hors de portée. Et pourtant, on a tous un rôle à jouer. Je le disais tout à l'heure, vous êtes garant, par exemple, de cette convention citoyenne pour le climat, là, les 150 citoyens qui ont été tirés au sort en France pour voilà, faire des recommandations pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre du pays. Et ils se sont réunis, hein, les 150, virtuellement, comme nous aujourd'hui, finalement, pour faire des propositions en disant, voilà, nous, les citoyens, on a des choses à dire. C'est pas uniquement une réflexion que pour les élites, que pour les décideurs politiques, c'est aussi une réflexion dans laquelle la pensée des citoyens peut peser.
Elle devrait peser. Enfin, dans une démocratie, théoriquement, si on reprend la définition de Lincoln, pouvoir par le peuple, pour le peuple, on devrait être en mesure de peser sur les orientations politiques. Et le problème, c'est que c'est plus beaucoup le cas. À la fois parce que peut-être qu'on ne s'implique pas suffisamment les uns et les autres dans la politique, que nos modèles démocratiques sont relativement datés et qu'on a un peu limité la démocratie à voter pour quelqu'un tous les 5 ou 6 ans, à attendre que ça se passe et à regarder si le travail a été fait ou non, ce qui n'est pas très satisfaisant. Donc là, par exemple, cette expérience-là, elle consiste à tirer des citoyens et des citoyennes au sort, à les réunir pendant un certain nombre de week-ends. Donc là, en l'occurrence, ils vont travailler 8 week-ends de 3 jours et ils vont délibérer. Et cette délibération, elle consiste à aller écouter ce que les experts ont à nous dire sur un certain nombre de sujets. Donc là, c'est le sujet du changement climatique. D'entendre des points de vue contradictoires, c'est-à-dire d'entendre les intérêts qui traversent la société, à la fois les intérêts économiques, les intérêts sociaux, les intérêts écologiques. Et à partir de tout ça, engager la délibération pour faire des propositions qui soient acceptables pour l'ensemble de la société. En France, Emmanuel Macron s'est engagé à ce que ces propositions soient soumises ou au Parlement ou au référendum ou les deux en fonction de leur nature et puis en fonction des recommandations de la Convention citoyenne. Je pense qu'on aurait besoin de généraliser ce type de mode de fonctionnement pour plein de sujets, pas seulement pour le sujet climatique. On aurait même besoin de les faire rentrer dans nos institutions. La démocratie délibérative a vraiment besoin d'être une sorte de complément de la démocratie représentative pour que la déconnexion qu'on sent de plus en plus entre les élus citoyens s'amenuise, et puis pour qu'on sorte un peu aussi de cette espèce de populisme qui est extrêmement effrayant, où des responsables politiques, on l'a vu avec Trump, on le voit avec Bolsonaro, ont tendance à manipuler les opinions politiques, les publics avec des sentiments un peu primaires et primales. Cette crise, elle aussi, nous montre que où on va choisir d'aller vers plus de démocratie et des mécanismes comme cela, où on a de très fortes chances d'aller vers des mécanismes qui sont de plus en plus autoritaires. Parce que pour la crise climatique, comme pour la crise sanitaire, si on attend le dernier moment, si on attend d'être face aux catastrophes, des décisions seront prises qui seront certainement fortement limitantes pour la liberté individuelle. Et d'une certaine manière, plus personne n'aura rien à dire parce qu'il sera déjà trop tard. On voit les choses se profiler avec cette histoire de tracking qui, moi, m'inquiète particulièrement.
Alors, pour avoir une vision juste du monde dans lequel nous vivons et faire les bons choix stratégiques, il faut aussi revoir nos indicateurs, à commencer par le sacro-saint PIB, hein, le produit intérieur brut de chacun de nos pays, dont nous entendons beaucoup parler en ce moment. Cette révision, c'est ce que propose l'économiste Éloi Laurent dans son dernier livre « Sortir de la croissance, mode d'emploi ».
Le bien-être humain, une vie heureuse, dirait, aurait dit Aristote, c'est quoi ? Bah, c'est en fait pour tout le monde instinctivement la santé, l'éducation, le bonheur, le temps passé avec ses enfants, avec ses amis, donc le temps libre, et puis plus largement les institutions, les inégalités, la confiance, et puis plus largement encore les dimensions de la biosphère, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Et bah, quand vous faites le rapport entre cette... Tous ces horizons du bien-être et ce que mesure le PIB, ce que je montre à un moment dans un graphique dans le livre, c'est qu'en fait le PIB mesure une part minuscule de tout cela. Et évidemment au 21e siècle, quand on a sous les yeux la crise des inégalités, les crises écologiques et la crise démocratique, bah, ça nous saute au visage. On est en fait prisonnier d'une boussole qui est une boussole du 20e siècle, voire même du 19e siècle, et on est au début du 21e siècle avec des crises qui sont absolument gigantesques sur les bras et on n'a pas d'indicateur fiable. Le problème, c'est que les gens pensent que la croissance est quelque chose d'abstrait, de philosophique, qu'on pourrait mettre en adéquation avec le progrès. Mais ce n'est pas ça la croissance. La croissance, c'est un indicateur particulier et ça engage les politiques publiques. C'est que c'est la croissance du PIB et le PIB, il est encastré dans nos politiques publiques. Donc quand on fait des politiques économiques aujourd'hui dans le monde entier, que ce soit en France, en Afrique, en Asie, on prend ça comme référence. Et si vous voulez faire augmenter le PIB, vous allez faire des politiques publiques qui vont faire augmenter le PIB, y compris au détriment de toutes les autres dimensions du bien-être. C'est-à-dire que vous allez détruire l'éducation pour faire augmenter le PIB. Vous allez détruire les écosystèmes pour faire augmenter le PIB, etc. etc. Donc c'est effectivement gravissime.
Et pourtant, Alain Grandjean, on entend en ce moment partout dans les médias des pertes de points de PIB. Comment est-ce qu'on va relancer la croissance, etc. avec cet indicateur qui reste l'indicateur phare pour tous les pays du monde entier.
Oui, mais c'est un paradoxe. Hein. Ça fait des années et des années que ce que dit Éloi Laurent est juste. Alors, je parle des pays dits développés. Hein. Il y a une petite corrélation quand même entre un certain nombre de progrès humains et le dit PIB dans des pays qui ont tout à faire, ce qui était le cas dans notre cas il y a deux, trois siècles. Donc, c'est complètement paradoxal. On n'arrive pas à changer de dispositif en temps normal. Espérons qu'une crise majeure comme celle-ci nous permette de le faire. Ce n'est pas par défaut d'options, d'alternatives. Il y a en France une loi qui a été votée en 2015 qui vise à ce que le gouvernement rende compte de l'état du pays. Cette loi est lettre morte à ce stade, autrement dit les rapports sont faits, mais le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, les médias, les journalistes économiques ne veulent pas en parler parce que c'est plus facile de parler du PIB. Il y a un deuxième point, et je vais m'arrêter là, je ne vais pas être trop long, c'est que le PIB a une vertu pour les budgétaires de Bercy, c'est qu'il permet d'anticiper des recettes fiscales. Donc la baisse du PIB, c'est un sujet qui est très très lié en fait à la question de l'équilibre budgétaire, et c'est un tabou dont je vais parler dans quelques minutes.
Absolument, on va y revenir. Félouine Sarr, comment est-ce que vous voyez cette critique du PIB vue du Sénégal ?
Si on regarde les choses de manière beaucoup plus aiguë, cette croissance n'en est pas fondamentalement. C'est une croissance d'une entreprise, le vivant avec un E, et c'est une croissance à quel prix, à quel coût, qui se fonde sur une captation de la biocapacité, donc de plusieurs espaces. Et il y a une sorte de totem du PIB, et c'est un indicateur qui travaille les imaginaires et à mon avis, il y a un travail à faire pour effectivement dire ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, le décorréler avec la vague vision du bien-être. Et je dirais que même en Afrique, je veux dire, ça fait depuis les années 2000 qu'on a une croissance du PIB qui va être là interrompue, mais on n'a pas réussi à transformer cette croissance du PIB en amélioration du bien-être des individus, en réduction des inégalités et de la pauvreté. Ça veut bien dire qu'il y a d'autres espaces de travail qui ne sont pas que la simple croissance du PIB. Et en plus de cela, cette croissance-là, c'est quel type de croissance, sur quoi on la fonde, qu'est-ce que ça coûte à la biosphère, qu'est-ce que ça coûte aux autres ordres du vivant. Et à mon avis, la question fondamentale, elle est là, c'est qu'on doit totalement changer de vision économique et de paradigme. Et là, on a aussi l'occasion de le faire. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas créer de richesse, mais à quel coût, à quel prix, et puis comment est-ce qu'on l'installe dans quelque chose de beaucoup plus durable, et évidemment de travaux dans ce sens. Sauf que jusque-là, ils n'ont pas l'air d'avoir l'oreille des décideurs et ils n'ont pas induit à un champ de culture économique et de manière de faire. Et c'est peut-être là aussi qu'il faut travailler. Comment on fait pour que finalement, soit à côté du PIB ou bien comme certains ont fait en Amérique latine en créant d'autres notions, le buen vivir, la pachamama, ou comme le bouton, le bonheur national brut, inclure d'autres dimensions, vie en société, de la vie en communauté, du rapport à l'environnement, du rapport à l'écologie, et faire en sorte que cette croissance-là soit une croissance de toutes les dimensions de notre existence et créer un concept qui le reflète.
Alors cette crise du coronavirus nous oblige à regarder le monde dans lequel nous vivons droit dans les yeux, à décloisonner nos imaginaires, on l'a entendu, et à avoir un sursaut de lucidité pour poser les bases d'un monde plus résilient au choc. Nous en parlons toujours avec nos invités, juste après une pause musicale.
Il était couvert de dettes, de la tête aux pieds. Chez lui venait faire la quête, tous ses créanciers. Et pour fuir ses personnages qui le torturaient, un jour sans faire de tapage, il partit pour la forêt. Au pied d'un arbre, il s'endormit, mais pendant qu'il rêvait, un oiseau tout en haut de lui, sur une branche lui chantait. Paye tes dettes, une, deux. Paye tes dettes, mon vieux. Paye tes dettes, c'est mieux. Ou sans ça, ça n'ira pas. Il se dit dans son sommeil, c'est la voix de ma conscience qui me poursuit et me surveille. Je vais à mon réveil rembourser ces braves amis qui m'ont fait confiance. Non plus jamais, je me le dis, je ne veux de crédit. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, allez. Il y fut tout de go. Quel souvenir, quelle belle journée, quand il régla tout, tout ce qu'il devait depuis des années, jusqu'au dernier sou. Il se défie même de sa chemise, bon, on peut se passer de ça. Dans les bois soufflait la brise, tout joyeux il y retourna. Sous le même arbre il s'étendit, alors le même oiseau vint se poser là tout près de lui, en répétant d'un air idiot. Paye tes dettes, une, deux. Allez, allez, paye, paye tes dettes, mon vieux. Il faut payer toutes, toutes tes dettes. Paye, 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 paye. Dans l'instant même, il comprit que la voix de sa conscience n'était autre qu'un volatile absurde et obstiné qui répétait le même cri depuis sa naissance sans savoir ce qu'il disait, quelle destinée. Paye tes dettes, disait. Paye tes dettes, l'oiseau. Paye tes dettes, oh, assez, ou je vais te fracasser.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
La crise sanitaire que nous traversons, qui a mis l'économie mondiale à genoux, est l'occasion de remettre à plat nos certitudes, de décloisonner nos imaginaires et peut-être de revoir enfin nos modèles économiques pour les rendre plus justes et plus résilients. Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités dans C'est pas du vent, car cette crise du coronavirus n'est, si on écoute les scientifiques, que le début d'une longue série causée par le dérèglement climatique et la disparition de la biodiversité. Ce qui nous attend serait bien pire. Alors depuis quelques semaines, l'argent qui était si difficile à trouver pour financer la transition écologique ne semble plus être un problème. Les milliards pleuvent pour venir au chevet de l'économie. Donald Trump annonce 2000 milliards, la Chine 7000 milliards, le G20 5000 milliards, l'Union européenne a mis sur la table 750 milliards d'euros. Mais d'où vient tout cet argent? Alors dans une vidéo très pédagogue qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux, je vous invite à la regarder, le collectif Partager c'est sympa décortique les coulisses. Je vous propose d'en écouter écouter un extrait et on en parle ensuite avec nos invités.
On ne va pas se remettre à consommer du jour au lendemain. L'économie réelle va tourner au ralenti pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Or, de très nombreuses entreprises n'ont pas les réserves, n'ont pas la trésorerie pour se le permettre. Rappelez-vous que leur dette est le double de ce qu'elle était en 2008. L'État, prêteur en dernier ressort, va dépenser d'énormes sommes d'argent qu'il n'a pas pour racheter les obligations et les prêts de ces entreprises en difficulté. Donc leur dette va devenir celle de l'État français. La dette privée devient publique.
Pour permettre aux États d'exploser leur budget, l'Union européenne a pris la décision inédite de suspendre temporairement les règles de discipline budgétaire des États membres. Le déficit public peut dépasser les fameux 3% du PIB du pays.
Temporairement donc, les États peuvent dépenser plus qu'ils ne gagnent.
La Banque Centrale Européenne, la BCE, joue le jeu en continuant de racheter massivement des dettes d'entreprises et d'États en maintenant des taux d'intérêt bas pour que ce soit toujours plus facile de s'endetter. Elle met aussi 750 milliards à disposition des marchés financiers. Une somme fantastique qui, on le sait maintenant depuis 2008, restera captif du bilan des banques. Elles le garderont pour elles, ou cette somme sera utilisée pour faire grandir des bulles spéculatives sur le marché immobilier ou encore pour financer le pétrole.
La Banque Centrale Européenne ne fait donc pas grand-chose qui serve directement l'économie réel. On vient de voir dans le premier scénario qu'à partir du moment où les États sont forcés d'emprunter massivement sur les marchés financiers, c'est comme s'ils se mettaient eux-mêmes la corde autour du cou pour se faire pendre. L'alternative, c'est de contourner les marchés financiers, de sortir de l'endettement purement et simplement en permettant à la Banque Centrale Européenne de donner directement de l'argent aux États, aux entreprises et aux particuliers. Lui permettre de créer de l'argent sans dette en contrepartie. De la monnaie libre. C'est un concept développé par Nicolas Dufresne et Alain Grandjean dans un bouquin qui est sorti en février 2020, juste avant la crise, Une monnaie écologique. Le résultat de ce nouveau rôle pour la Banque Centrale Européenne devrait vous réjouir. Pas de politique d'austérité, pas de corde de la dette autour du cou, mais bien un budget illimité pour la réorganisation de notre économie, alimenté directement par la Banque Centrale, la seule banque qui ne peut pas faire faillite. C'est pas une idée en l'air. C'est une mesure pragmatique à la hauteur du désastre écologique, politique et social que l'on vit aujourd'hui. La seule limite de ce second scénario est le risque d'inflation, c'est-à-dire une perte de confiance en la monnaie et une hausse drastique des prix. Mais depuis 2008, nous sommes sur une pente déflationniste. Un peu d'inflation nous ferait du bien. Mais surtout, il n'y aura pas d'hyperinflation si l'argent est fléché vers l'économie réelle, si la taille du gâteau national grandit aussi vite que la masse monétaire. Là où le premier scénario nous promet au mieux que les milliards injectés sur les marchés financiers vont ruisseler jusqu'à notre portefeuille et l'économie réelle, ce qui, je le répète, n'a pas eu lieu depuis 10 ans que la BCE fait ça, le cœur du second scénario est de flécher toute la création monétaire vers l'économie réelle.
Voilà un extrait de cette vidéo de Partager, c'est sympa, que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Alors, Alain Grandjean, vous êtes cité en guest star dans cette vidéo. Expliquez-nous ce concept de monnaie libre, de monnaie écologique que vous défendez dans votre livre publié avec Nicolas Dufresne chez Odile Jacob.
Alors, il y a deux temps. Le premier temps, c'est que la monnaie, ça se crée d'un jeu d'écriture. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, parce que c'est un poil plus compliqué que ça, entre le rôle de la banque centrale et le rôle des banques secondaires. Mais ça fait très longtemps que tout le monde le sait. Et le deuxième temps, c'est que créer cette monnaie, qu'elle soit centrale ou secondaire, pour alimenter les marchés financiers, pour alimenter les bulles spéculatives, ou pour alimenter une économie qui n'est pas durable, ce n'est pas raisonnable. Donc, la notion de monnaie écologique, ça consiste à dire, il y a d'un côté la possibilité de créer de la monnaie sur un simple jeu d'écriture, mais la condition majeure, pas qu'elle soit utilisée juste pour détruire la planète, c'est qu'elle soit fléchée et utilisée de manière intelligente, c'est-à-dire vers une économie durable. Donc il ne s'agit pas, comme le dit la vidéo, de faire grossir la taille du gâteau. Il s'agit de développer le progrès humain, hein, pour qu'on soit bien en phase ensemble. Au niveau européen, c'est un tout petit peu compliqué parce que il y a un traité européen qui rend cette chose-là pas si simple que ça. Ce qu'on a décortiqué dans le livre avec Nicolas Dufresne, c'est les manières de contourner les règles dites de Maastricht, en gros le traité européen, pour y arriver. Il y a des options, il y a des possibilités. Je dois dire que ce qui paraissait totalement hors de portée, quand on a écrit le livre et quand on l'a sorti, devient presque accessible aujourd'hui. On voit la Banque centrale d'Angleterre prêter à l'État anglais, même si c'est provisoire et même si c'est temporaire et même s'ils nous disent on arrêtera de le faire à la fin de l'année, c'est quand même une grosse
entaille dans le tabou. On voit le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, dans le JDD, nous dire que en sortie de crise, il faudra cantonner les dettes publiques détenues par la Banque centrale pour qu'elles ne soient pas remboursées tout de suite, comme on l'a fait à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où on a sans doute oublié que les dettes allemandes ont été à peu près supprimées en 1950, au moment de la création du Deutsche Mark. Donc je pense que là, le but, ce n'est pas de dire il y a une solution totalement magique qui résout tous les problèmes. Le but, c'est de dire on a des options qui nous permettent d'envisager le financement de la transformation de l'économie qu'il faut faire rapidement. Ce que je crains le plus, moi, dans l'histoire, c'est qu'on ait une, non pas un jour d'après, c'est qu'on ait une récession longue, douloureuse, que les bons esprits nous expliquent, vous voyez, il y a des dettes partout, donc il va falloir travailler pendant des années pour la payer, qu'on fasse subir à toutes les populations du monde entier des choses difficiles, très désagréables, sur un ton très moralisateur, alors que la transformation de nos économies ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre 10 ans, tout le monde le sait, le tic-tac climatique est lancé depuis longtemps. Rester sur une trajectoire telle que la température mondiale planétaire ne dépasse pas les 2 degrés, ça nécessite des transformations vraiment importantes. Il s'agit d'économiser à toute vitesse l'énergie qu'on gaspille n'importe comment. Il s'agit de faire en sorte que les transports qu'on continuera comme à utiliser soient bas carbone. Donc faire rendre, par exemple, pour être très très concret, les villes cyclables, ça demande des dépenses d'investissement. J'ai parlé de la rénovation énergétique. Il faut que les bâtiments soient sobres, il faut que nos modes de vie soient sobres, il faut que notre agriculture cesse de dépendre, comme on l'a vu en Afrique, mais en Europe, c'est absolument évident, cesse de dépendre de produits toxiques et d'énergie fossile, puisque l'engrais, c'est beaucoup de gaz. Tout ça, ça ne va pas se faire juste en le pensant. Il faut absolument investir. Et donc, ce que je crains le plus, c'est qu'on nous fait cours de morale sur les dettes et les déficits en sortie de crise, parce qu'à court terme, tout le monde a bien compris qu'il n'y avait pas le choix, parce que précisément, les bons esprits pensent qu'il faut quand même relancer la machine. Et donc, c'est pour ça que cette monnaie écologique, elle permettra de financer un fonds de reconversion majeur au niveau européen. Simplement, la monnaie, ce n'est pas l'économie réelle, et donc il faut bien quand même commencer par des mesures concrètes, telles que les entreprises qui peuvent le faire et qui doivent le faire se mettent à travailler sur base de commandes publiques ou sur base d'incitations publiques majeures.
Fedwin Sarr, comment est-ce que vous réagissez aux propos d'Alain Grandjean, sachant que si on parle de dettes, on a aussi beaucoup parlé récemment des dettes africaines hein, qui, pour l'instant, vont peut-être bénéficier d'un moratoire à défaut d'une annulation.
Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'il y a des options. Je veux dire, en 2008, lors de la crise, la Fed avait fait ce qu'on a appelé du quantitative easing, des mesures non conventionnelles, et l'idée c'était de faire en sorte que la création monétaire aille directement à l'économie. Et bien évidemment, on sait que l'économie est une grande convention, c'est une réalité fictionnelle qui fonctionne puisqu'on y croit et qu'il y a de la fiduciaire. La question de la monnaie et du système monétaire sont rentrées dans les détails. Tant que les agents économiques ou les individus croient que la monnaie a cours légal et forcé et croient qu'ils ont la créance de ce qui est inscrit sur le billet et que le système fonctionne, le système peut fonctionner. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on n'est pas obligé de rentrer dans un cycle création monétaire, endettement, austérité, et qu'il y a des options. Et c'est ça que je trouve important, d'indiquer qu'il y a des options et qu'il y a des manières de créer de la monnaie à des fins de progrès social et pas à des fins de nourriture des bulles spéculatives, et que nous ne sommes pas obligés, que nous ne sommes pas enfermés dans un système qui n'a pas d'issue. Pour en revenir sur la dette africaine, en fait, l'Afrique est le continent le moins endetté au monde. Le ratio de dette sur PIB du continent est de 58%. Le problème, c'est que le continent s'est réendetté ces 10 dernières années de manière extraordinaire. Et bien évidemment, s'il y a un moratoire sur la dette, ça libère des capacités, c'est une bouffée d'oxygène. Cette année, les gens ne paieront pas. Le principal est les intérêts et ils auront des ressources pour faire face à la crise. Mais il y a un côté économique de la compassion, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un problème, il y a un haro sur la pauvre dette des Africains qui les étrangle, qu'on va annuler, et puis il y a tout un tas de débats qui nous installent dans ce que j'appellerais moi une sorte de culture de l'incapacité. Pour moi, le problème, il est de savoir pourquoi est-ce que tous les 10 ans, on serait en dette après les annulations, quelle est la structure de notre dette, comment est-ce qu'on investit, quel est le problème de notre base fiscale, donc comment on fait pour sortir de ce sombre cycle qui fait que on s'endette à des taux concessionnels, un peu moins avec la Chine, et oubliant, on revient demander qu'on nous annule comme si nous étions incapables donc, d'avoir une gestion saine de cette problématique-là. Et deuxièmement, le fait que lorsqu'on en parle, elle est totalement déconnectée de sa réalité. Le Japon, les États-Unis sont les pays les plus endettés au monde. Que la dette africaine, moins de 500 milliards, elle représentait 0,2 de la dette mondiale. C'est une épine. Donc, même si on veut l'annuler, on peut l'annuler sans trop de fracas, parce que ça ne représente pas grand-chose. Et en plus, si on regarde les ratios dette sur PIB, aujourd'hui, le continent il n'est pas surendetté, donc il n'y a aucune raison d'être dans ce complexe du grand sauveur. Et on va encore annuler la dette africaine, les pauvres Africains, ils ne s'en sortent pas. Il y a quelque chose de symbolique là qui ne va pas et qui me gêne dans la manière dont le problème est traité, même si je reconnais que ça libérerait des ressources. Mais là aussi, j'ai envie qu'on pense structurel et qu'on sorte d'une sorte de culture de l'incapacité.
Voilà une mise au point qui semble intéressante. Cyril Dion, au-delà de ces enjeux économiques qui sont décisifs, on arrive à la fin de cette émission. Hein. On a besoin d'un récit commun, vous le dites souvent, d'un horizon. On a besoin de faire le point sur ce qui nous rend réellement heureux et sur la direction dans laquelle il faut regarder.
Ben, j'adore ce que vient de dire Felwyn sur le côté fictionnel de notre économie, parce que c'est exactement ça, et de la monnaie. On est là dans une situation où on se rend compte que ça fonctionne pas. C'est-à-dire que continuer à essayer de faire croître le PIB de façon illimitée dans un monde fini, continuer à créer l'argent par la dette et donc mécaniquement concentrer de la richesse dans quelques mains aux dépens des autres et mécaniquement créer une convention, une fiction qui s'appelle la dette, qui nous empêche de réagir. C'est complètement fou quand on y pense. C'est-à-dire que nos économies sont en train de s'effondrer et des personnes vont être en situation de perdre leur emploi, peut-être perdre leur maison, de ne peut-être pas être en capacité de se nourrir pour un certain nombre de raisons structurelles, mais aussi beaucoup de raisons fictionnelles qui sont liées au récit collectif auquel nous adhérons. Peut-être qu'à un moment, c'est ce que dit beaucoup Harari, là, l'auteur de Sapiens, on peut accepter d'avoir un petit pas de recul, de regarder le fait que l'organisation du monde est une convention et de choisir de transformer cette convention et donc de construire des récits différents, de construire d'autres façons de créer de la monnaie. J'adore cette idée de créer de la monnaie qui ne soit pas rattachée à de la dette, de créer d'autres modalités démocratiques, de créer d'autres façons de se nourrir. Il n'y a rien qui nous oblige à des conventions économiques assez absurdes à faire voyager notre nourriture pendant des milliers de kilomètres avant qu'elle arrive dans notre assiette. Rien ne nous oblige à ça. On peut aussi décider qu'on veut se nourrir avec des fermes qui sont aux portes de nos villes, avec des paysans qui sont bien rémunérés. Donc ça aussi, c'est revoir nos fictions, de se dire si la santé, si l'éducation, si l'alimentation, c'est des choses qui nous sont aussi essentielles, peut-être que ça veut dire qu'elles ont beaucoup de valeur et que dans la fiction dans laquelle on vit aujourd'hui, cette valeur s'est beaucoup diluée. Aujourd'hui, dans un ménage français, c'est à peu près 13% de notre budget qui va à l'alimentation. Quand on voit le fait qu'on est réduit finalement à ce besoin primaire dans ce genre de circonstances, on peut se dire que c'est peut-être pas suffisant. Et grande chance pour nous, de nombreuses personnes sont déjà en train d'inventer ces nouvelles fictions, ces nouvelles histoires. On parlait de modèles économiques, mais on peut parler de nouveaux modèles industriels, de modèles agricoles, de nouveaux modèles démocratiques, de nouvelles façons d'éduquer les enfants. C'est ce qu'on avait essayé de faire avec le film Demain, mais il y a plein de gens qui le font et qui le relaient. Profitons de tout ça pour adopter, épouser en fait ces recherches, pour expérimenter des choses, expérimenter. On reparle par exemple de revenus universels, je ne sais pas si c'est la bonne solution, mais c'est intéressant. Il y a des expérimentations qui sont faites qui, à certains endroits, marchent. Ne nous disons pas, en tout cas, que la réalité est immuable et que nous sommes obligés de respecter ces conventions parce qu'elles ne sont que des conventions et des fictions.
Eh bien écoutez, cette crise va peut-être servir en partie à cela. En tout cas, cette émission y participera. Merci beaucoup à tous les trois d'être intervenus dans cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et à vous, bien sûr, chers auditeurs, pour votre fidélité et pour tous vos messages. Vous trouverez les références des publications de nos invités sur la page de l'émission. Et je vous le dis chaque semaine, prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.